quand les dieux rôdaient sur la terre. Il y a très longtemps, en Grèce, tout pouvait arriver. Il fallait s'attendre à tout, en bien ou en mal. Ces dieux, ces déesses, peuplaient le monde, toutes ces régions, même les plus extrêmes, les plus sauvages. Ils peuplaient aussi tous les esprits des femmes et des hommes, leurs désirs, leurs pensées, leurs angoisses et leurs plaisirs. Mais ces dieux et ces déesses restaient la plupart du temps invisibles. Personne ou presque n'a vu Zeus en face, ou Apollon, ou Athéna. Quand un mortel a pu entreapercevoir le visage, ou plutôt l'un des visages de ces êtres divins, ça a mal tourné pour lui, la plupart du temps. Aucun humain n'a assisté à la vie des dieux, à leurs histoires, à ce qu'on appelle leurs mythes. Mais alors, comment en avons-nous plus ou moins connaissance? Il a fallu que des divinités, les muses, filles de mémoire et de Zeus, qui habitaient l'Olympe, qui chantaient et dansaient avec les dieux, racontent leurs aventures à des poètes, si elles le voulaient. Ces poètes, à leur tour, nous les ont racontés.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Des poètes, informés par ces muses, affirment que des déesses et des dieux ont pu apparaître à des mortels, là ou là, au moment où ils s'y attendaient le moins. Mais ce sont des histoires du temps passé, des histoires d'un temps révolu, l'époque, pas forcément heureuse, où dieux et humains se fréquentaient encore, se parlaient, se querellaient, faisaient l'amour, souvent, avaient des enfants ensemble. C'était l'époque des demi-dieux, des Achille, Énée, Bellérophon, Sarpédon, Héraclès, avant qu'ils ne deviennent dieux, et de la plus belle des femmes, Hélène.
Tu ne devrais pas être ici.
C'est ce que tu as dit la nuit dernière.
La nuit dernière était une erreur.
Des perles de la mer de Propontis.
Elles sont magnifiques, mais je ne peux les porter. Manala sera capable de nous tuer.
N'aie pas peur de lui.
Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de demain.
En séduisant des mortels, femmes ou hommes, les déesses et les dieux se soumettaient à la loi de l'une des leurs, la loi de l'une des déesses les plus puissantes, les plus impérieuses et souveraines. La déesse qui soumet, qui dompte tous les êtres, mortels ou immortels, les animaux, les plantes, les fleuves, tous les êtres de la nature. La déesse Aphrodite. Vénus, chez les Latins, déesse qui préside à l'amour, aux unions sexuelles. Aphrodite préside à toutes les étapes de la séduction et de la conquête amoureuse. Elle veille à tout et impose la réussite du désir, quitte à mettre dans la scène amoureuse une dose de fourberie. Hésiode, le poète qui a raconté la naissance des dieux dans son poème La Théogonie, qu'on date de la fin du 8e siècle ou du début du 7e siècle avant Jésus-Christ, présente ainsi le domaine divin et joyeux, doux comme le miel, qui est réservé à Aphrodite, la divinité érotique.
Eros lui tenait compagnie, et le beau désir, Hyméros, venait à sa suite, dès sa naissance, et plus tard, quand elle partit rejoindre la tribu des dieux. Dès l'origine, elle a détenu cet honneur et s'est vue attribuer ce domaine chez les hommes et chez les dieux immortels. Les conversations des filles, les sourires et les tromperies, le doux plaisir, l'amour et le miel de la tendresse.
Mais Aphrodite n'est-elle que la reine du plaisir? Son pouvoir est immense. Déesse des unions, elle fait le monde, ses nouveautés, ses printemps fleuris et féconds. Elle fait aussi les sociétés, elle renouvelle les générations. Mais elle fait aussi les guerres, les rivalités, les grands événements de l'histoire divine et humaine, même les plus déchirants. C'est Aphrodite comme déesse de l'amour qui est à l'origine de la guerre de Troie, cette immense catastrophe qui a mis en danger l'ensemble du monde connu des Grecs, la Grèce et l'Asie. C'est à cause d'elle que le prince troyen Paris a enlevé la plus belle femme du monde, Hélène, à son mari grec, le puissant roi Ménélas. Elle a ainsi déclenché une guerre de 10 années, guerre qui a envoyé dans les enfers des milliers de guerriers grecs et troyens.
Où est-elle ? Je jure par le père de tous les dieux que je t'éventre sur place si tu ne me le dis pas.
Mon roi, elle est partie avec les Troyens. Ce pêcheur l'a vue monter à bord de leur navire.
Les Troyens.
Avec le jeune prince Paris, elle...
Armez mon navire.
Mais au départ, quand Aphrodite intervient, il y a le désir, le plaisir, l'amour, les belles paroles, les fleurs, la beauté, même quand la guerre fait rage alentour. l'une des plus belles scènes d'amour qui nous a été racontée, réunis dans un paysage merveilleux et fleuri, Zeus et Héra, son épouse légitime, la Junon des Latins. L'union a lieu en pleine guerre de Troie, sur la crête la plus élevée de la montagne boisée de Lida, non loin de la bataille entre Grecs et Troyens. Aphrodite joue son rôle habituel. Elle est l'artisane de cette merveilleuse et spectaculaire union des deux grandes divinités. L'Iliade d'Homère nous raconte la scène. Elle est étonnante, paradoxale. Aphrodite va aider la déesse souveraine Héra à séduire son mari Zeus, alors que les deux déesses sont farouchement adversaires. Héra soutient sans réserve les Grecs, et Aphrodite est pour les Troyens, pour Paris, et pour le fils qu'elle a eu d'un mortel, le prince aîné, qui combat avec lui. L'aide qu'apporte Aphrodite à Héra est d'autant plus surprenante que la démarche érotique d'Héra n'est en fait pas amoureuse. Sous les dehors du désir, elle sert un but guerrier, aider les Grecs sur le champ de bataille. L'armée grecque est en grande difficulté. Héra veut lui porter secours, mais Zeus vient interdire toute intervention divine dans la guerre. Toute déesse, tout dieu qui désobéirait serait immédiatement foudroyé par lui. Zeus veut diriger ce conflit à sa guise. Pour le moment, il donne l'avantage aux Troyens, ce qui exaspère Héra. Héra a une idée. Si elle aide les Grecs, Zeus ne doit pas s'en rendre compte. Pour cela, il n'y a qu'une solution, l'endormir. Pour cela, il n'y a qu'un moyen, qu'il s'assoupisse à ses côtés, comblé d'amour. Héra décide donc de séduire Zeus. Mais pour séduire Zeus et l'endormir, elle a besoin d'Aphrodite, de ses armes érotiques imparables. Or, on l'a vu, Aphrodite est pour les Troyens. C'est elle qui a mis la belle Hélène, la grecque, dans les bras du prince troyen, Paris. Malgré cela, Aphrodite va prêter main forte à Héra, l'épouse légitime et souveraine de Zeus, le dieu souverain. Elle ne peut rien lui refuser. Aphrodite est d'un rang inférieur. Homère nous présente Aphrodite comme la fille de Zeus et d'une divinité très discrète secondaire, Dionée, l'une des nombreuses filles du dieu Océan. Dionée n'est en fait connue que comme étant la mère d'Aphrodite. Pour le moment, on peut dire que si Aphrodite cède à Héra, c'est que déesse des sourires, de la fourberie et aussi de l'humour. Elle a en fait bien compris la demande d'Héra et s'en amuse, trop heureuse de participer à une ruse érotique. S'étant purifié le corps avec une huile immortelle et douce qu'on n'avait parfumée que pour elle, Héra s'habille divinement dans une chambre bien close.
Elle se vêtit d'un vêtement souple, d'immortalité, qu'Athéna avait lissé par son travail. Elle y avait mis une foule de figures chamarrées. Par des agrafes d'or, elle l'accrocha sur sa poitrine. Elle se ceignit d'une ceinture jointe à 100 franges. Dans ses lobes percés avec art, elle mit des pendants d'oreilles à 3 prunelles. On aurait dit de belles mûres. D'elle brillait une grâce immense. L'éclatante parmi les déesses se couvrit d'un voile, beauté d'origine nouvelle. Il était blanc comme le soleil. À ses pieds lumineux, Héra attacha de belles sandales.
Puis, Héra va voir Aphrodite. Elle lui demande d'oublier un instant sa colère contre elle. Elle lui demande une arme fatale pour que Zeus succombe.
« Donne-moi amour et désir, grâce à qui tu maîtrises tous les immortels et les hommes mortels. »
Héra, évidemment, ne lui avoue pas le but de sa démarche. Elle invente un prétexte qui ne trompe personne. Elle dit avoir besoin d'un talisman d'amour, parce que deux anciennes divinités, le dieu Océan et son épouse, divinités qui sont à l'origine de tous les dieux et de tous les êtres, se sont fâchées et ne font plus l'amour. Il faut y remédier, dit Héra à Aphrodite, pour qu'ils s'aiment à nouveau. Prétexte absurde. Aphrodite d'ailleurs n'est pas dupe. Sa réponse à Héra montre qu'elle comprend de quelle étreinte amoureuse il s'agit.
Il ne se peut ni ne se doit qu'on refuse ce que tu dis, car tu dors dans l'étreinte de Zeus, le meilleur des dieux.
Généreuse, Aphrodite retire de sa robe un bandeau. Son pouvoir érotique est irrésistible, dit-elle.
Elle dénoua de sa poitrine le bandeau brodé, chamarré, où pour elle avaient été façonnés tous les enchantements. Là, il y avait l'amour. Le désir était là, et le doux entretien, séduction qui dérobe l'esprit, même de qui pense solidement. Elle le mit dans les mains d'Héra et lui dit « Voilà, place-le. » place dans ton sein ce bandeau chamarré en qui tout a été façonné. Et j'affirme que tu ne reviendras pas bredouille de ce que trame ton cœur.
Hera est ravie. Elle va trouver Zeus sur sa montagne et il succombe dès qu'il la voit. Brûlant de désir, il commence par faire l'éloge du pouvoir de séduction de sa femme par un long catalogue à la Don Juan. Il compare l'effet foudroyant qu'Hera produit à cet instant sur lui à toutes les séductions qu'il a connues par le passé.
Là, réjouissons-nous d'amour en couchant tous les deux. Car jamais l'amour d'une déesse ou d'une femme n'a autant dominé mon cœur. Il inonde, il encercle ma poitrine.
Puis l'union se fait. La nature, en fleurissant, célèbre l'amour des deux grandes divinités royales. Le dieu finit par s'endormir.
Et Zeus, le fils de Cronos, saisit dans son étreinte celle qui partage son lit. Pour eux, la terre divine fit pousser l'herbe d'un nouveau printemps. Et le lotus couvert de rosée, et le crocus, et la hyacinthe dense et souple, qui, la couvrant, protège de la terre. En ce lieu, ils couchèrent, revêtus d'une nuée belle et dorée, d'où, scintillante, tombaient les gouttes de rosée. Ainsi, sans bouger, Zeus dormait sur la cime extrême de l'Ida, vaincu par le sommeil et l'amour, étreignant celle qui partage son lit.
La stratégie d'Héra a réussi. Poséidon, son frère, qui comme elle tient pour les Grecs, peut déchaîner une contre-offensive victorieuse contre Hector et les Troyens. Le petit dieu sommeil, Hypnos, qu'Héra avait posté invisible dans un arbre au-dessus de la scène où Zeus et elle se sont unis, court prévenir Poséidon dès que Zeus s'est assoupi. Le réveil de Zeus sera mouvementé, sa colère sera immense. Chez les hommes, la guerre reprendra de plus belle en faveur des Troyens, pour le moment. Cette scène d'amour entre les dieux montre qu'amour et guerre sont liés. Même s'ils sont bien évidemment des puissances contraires. L'amour est miel et plaisir. La guerre, chez Homère, et pas seulement, est haïssable, douloureuse. Elle grossit le chagrin des hommes, nous dit l'Iliade. Elle donne la gloire, oui, si on a la chance de gagner, si les dieux ont décidé qu'on la mérite. Mais elle est d'abord haineuse, dévastatrice, fabrique de mort et de deuil. La guerre fait pleurer, ne cesse de répéter l'Iliade, qui n'est de loin pas un poème pacifiste. Peace and love. La guerre est là, tout le temps ou presque. Il faut savoir la mener en connaissance de cause. Il faut apprendre à endurer sa cruauté, à surmonter les souffrances qu'elle ne cesse de produire, apprendre à se remettre des blessures et des morts qu'elle fait proliférer. Bien que contraire, amour et guerre sont indissociables. Peut-être que l'intérêt des mythes qui tournent autour d'Aphrodite est la manière dont chacun, selon son idée, ces mythes essayent de saisir, d'exposer, de raconter et de comprendre cette complémentarité intrigante qui associe charme et férocité. Il n'y a sur cela pas de consensus chez les anciens Grecs. C'est une question ouverte qui a suscité chez eux un travail continu d'imagination, de questionnement que les Grecs expriment dans leurs mythes avec une grande liberté.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Sufras.
cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve.
Pierre Judet de la Combe évoque la déesse de l'amour, la belle Aphrodite.
Tu vois mes pieds dans la glace ?
Oui.
Tu les trouves jolis ?
Oui. Très.
Et mes chevilles, tu les aimes ?
Oui.
Tu les aimes mes genoux aussi ?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses.
Aussi.
Tu vois mon derrière dans la glace.
Oui.
Tu les trouves jolies mes fesses.
Oui, très.
Le dieu le plus proche d'Aphrodite, le plus ami, parfois son amant ou son mari, le plus choyé et recherché par elle, est précisément Arès, le Mars des Romains, le jeune, splendide et cruel dieu de la guerre. Pourtant, on le décrit souvent comme abominable. Il est le fléau des mortels, l'inassouvi de bataille, le fou de guerre, le délirant chef-d'œuvre du mal, selon les termes que lui réserve l'Iliade, pour dire l'horreur qu'il suscite. Zeus dit même d'Arès que c'est le dieu de l'Olympe qu'il déteste le plus. Il n'a en tête que rage, querelle et massacre. C'est un assassin. Et pourtant, fils de Zeus et d'Héra, Arès siège majestueusement dans l'Olympe en pleine gloire, à côté de sa demi-sœur Aphrodite, également fille de Zeus. Et souvent, il fait couple avec elle. ces deux êtres divins pourtant contradictoires, ne cessent de céder, de se désirer, de s'aimer. L'Odyssée d'Homère raconte longuement les amours d'Aphrodite et d'Arès. Elles prennent alors une tournure comique. Il s'agit d'un banal adultère où les deux amants magnifiques, sûrs d'eux-mêmes et méprisants, finissent dans le ridicule et la honte. L'histoire est racontée dans l'Odyssée par un poète aveugle, nommé Démodocos. Son nom veut dire « accueilli par le peuple » pour qu'il chante. Il est le chanteur attitré de l'île de Nausicaa, l'île des Phéaciens. Ulysse y a débarqué la veille, naufragé, fourbu, inconnu, après une tempête. Les Phéaciens organisent une fête en son honneur, alors qu'ils ne savent pas qui il est. L'hospitalité, à l'époque, ne se discutait pas. Après des épreuves sportives qu'Ulysse ne se prive pas de gagner, le roi des Phéaciens ordonne qu'on apporte sa lyre à Démodocos. Le poète va commencer à chanter. Des jeunes danseurs se mettent en place pour accompagner son chant. Leur danse sera vive, scintillante, harmonieuse. Elle éblouira Ulysse. Le chant du poète raconte les amours illicites d'Arès et d'Aphrodite à la belle couronne. Amours illicites, car Aphrodite, dans ce chant du poète Démodocos, est présentée comme l'épouse d'Héphaïstos, le dieu forgeron, le Vulcain des Romains. Ce mariage est surprenant. Aphrodite est la beauté même. Son mari est fantastiquement affreux. Il boite des deux jambes, doublement estropié, il a un cou compact de taureau, il est velu en sueur quand il travaille dans sa forge. Des automates, qui ont l'apparence de jeunes filles, lui servent de béquilles dans sa marche hésitante. Comment Aphrodite peut-elle être mariée à un tel personnage ? Héphaïstos, son mari, est le dieu qui, avec son art, fabrique des merveilles enchanteresses. Bijoux, diadèmes ou armes, maisons dorées, palais réunissant dans l'éclat de leurs ors les rayons enflammés du soleil et la lumière douce de la lune. Il sait fabriquer des trépieds porteurs de feu qui se rendent d'eux-mêmes dans la grande salle où les dieux font la fête pour l'illuminer. Il fabrique le charme, la grâce. Sa technique savante construit des objets fabuleux. Ces objets ont la même beauté que celle qui irradie naturellement du corps, des gestes, des mots d'Aphrodite depuis sa naissance. Les deux divinités se retrouvent en cela. Elles n'ont rien de semblable dans leurs apparences, dans leur corps. Mais Aphrodite et Héphaïstos savent, chacun à sa manière, produire et diffuser un charme qui subjugue. Art et nature se rejoignent. Néanmoins, Aphrodite trompe Héphaïstos avec le bel Arès, qui ne cesse de vouloir la séduire avec des cadeaux. Le dieu de la guerre est beau, toujours jeune et en force. Il ressemble en cela à ses adeptes, les jeunes guerriers. Pour faire la guerre fermement, sans plier, les corps des jeunes gens doivent être magnifiques, tendus, pleins de sève. On dit qu'ils sont en plein printemps, comme les fleurs qu'Aphrodite fait pousser pour célébrer et orner les unions amoureuses. Les deux divinités ne sont en fait pas si dissemblables. Devant l'insistance et le charme d'Arès, Aphrodite finit par céder. Arès, nous dit le chanteur Démodocos, déshonore le lit et le mariage du divin Héphaïstos, le maître de maison, chez lui. Le dieu soleil, cet astre qui voit tout et entend tout, prévient le mari de l'infidélité de sa femme. Héphaïstos invente alors un stratagème. Sur son enclume, il forge pour les amants un filet de métal, aussi fin qu'une toile d'araignée, invisible et incassable. Il en entoure le lit conjugal et fait semblant de quitter l'Olympe pour l'île de Lemnos. Arès arrive, empressé, convainc Aphrodite. Les amants se couchent et le filet leur tombe dessus.
Viens au lit, bien-aimé, et réjouissons-nous en couchant ensemble, car Héphaïstos n'est plus au pays. Sans doute est-il parti à Lemnos, chez les Saintiens, qui parlent comme des sauvages. Après dit cela, à elle, il semblait bienvenu de s'étendre. Ils allèrent au lit ensemble, puis s'endormirent. Autour, les liens dus à la technique d'Héphaïstos, riche en pensées, se répandirent, de sorte qu'aucun membre ne bougeait, ne se levait. Ils comprirent alors qu'il n'y avait pas d'issue.
À nouveau prévenu par le soleil, Héphaïstos rentre, constate et appelle tous les dieux de l'Olympe. Ils accourent et éclatent de rire. Héphaïstos est vengé. Il n'y a que le dieu Hermès, toujours prêt à plaisanter pour dire qu'il aimerait être à la place d'Arès, inextricablement soudé à Aphrodite. Pourquoi raconter une telle histoire comique dans un poème, l'Odyssée, consacré au long et pénible retour d'Ulysse depuis Troie, depuis cette guerre qu'il a gagnée à force de fatigue et d'exploits, et surtout grâce au piège qu'il a inventé, la ruse du cheval de Troie? Pourquoi cette histoire des amours ridicules d'Arès et d'Aphrodite? Précisément parce que ce mythe d'une Aphrodite à la fois adultère et bien attrapée, outre qu'il est drôle, fait ressortir les principes divins qui se sont déchaînés pendant toute la guerre de Troie. Aphrodite, l'instigatrice, et son amant Arès, l'insatiable buveur de sang humain, s'en sont donnés à cœur joie, sans aucune limite, sans aucun respect des normes établies pendant 10 ans. L'artiste, qu'est l'orfèvre divin Héphaïstos, les a fixés avec son filet. Il les a immortalisés dans leur complicité coupable, nous léguant une image inoubliable. Ce petit mythe nous dit, sur le mode de la drôlerie, ce qui est à la base de l'histoire de Troie et de la guerre qui ont mené les Grecs. Un mythe peut être drôle, il n'en est pas moins sérieux, pénétrant. Si on peut dire avec précision quels dieux ont provoqué les événements, les malheurs d'une telle guerre, si on peut les nommer, les raconter, c'est qu'on les respecte. On reconnaît leur puissance. Mais une fois cette reconnaissance bien affirmée, on est libre vis-à-vis d'eux. On peut rire avec eux et même à leurs dépens, puisque les dieux eux-mêmes aiment tant le rire. Ce n'est pas diminuer leur rôle, puisqu'on sait aussi célébrer leur efficacité. Dans la culture grecque, il n'y a pas de piété dévote, et donc pas de blasphème. Les dieux, quoi qu'on dise d'eux, seront toujours là, plus forts que nous. Rire d'eux nous donne seulement un peu de répit, et peut aussi les réjouir. Ils adorent ça. Aphrodite, déesse de la légèreté et de l'insouciance, n'est pas étrangère à l'humour. C'est même une plaisanterie, où elle est fortement impliquée, qui est à l'origine de toute la guerre de Troie. Une plaisanterie douteuse, une provocation de banquet. C'était pendant les noces grandioses de Thétis et de Pélée. Noces qui réunissaient dieux et mortels, même les muses y étaient invitées. Une déesse, Thétis, y était mariée par les dieux à un mortel, Pélée, le héros. Il y avait là urgente nécessité. Zeus désirait la déesse Thétis. Mais il ne pouvait pas coucher avec elle. Il avait appris qu'il aurait d'elle un fils plus fort que son père et qui le détrônerait. Il fallait donc marier la déesse à un mortel. S'il engendre un fils plus fort que son père, cela ne mettra pas en danger le pouvoir de Zeus. Ce père sera le brave Pélée, qui avait déjà pas mal d'exploits à son actif. Le fils plus fort que son père sera Achille. Thétis, la déesse, n'est pas d'accord du tout. Elle résiste avec acharnement. Mais elle doit finalement céder à la volonté impérieuse de Zeus. La fête commence. La déesse querelle, Eris, déesse sombre, nocturne, querelle la hargneuse, la moqueuse, déesse de la haine, de la guerre, profite de la réjouissance de la noce pour faire de la provocation. On dit parfois qu'elle se venge de ne pas avoir été invitée. Elle s'est imposée. Elle met au défi les 3 grandes déesses, Héra, Athéna, Aphrodite. Laquelle des 3 est la plus belle? La question est saugrenue, au moins pour Athéna, vierge résolue et éternelle, qui se tient loin de toute séduction. Mais on est dans une fête, il faut rire et être léger. Un arbitre est désigné par Zeus. Ce sera le jeune et beau Paris, prince troyen, qui était, paraît-il, le plus bel homme du monde à cette époque. Il garde des vaches dans les bois de la montagne Ida, près de Troie. Les 3 déesses le rencontrent dans ces bois et se soumettent à son jugement.
Paris, fils d'Agélaos le berger.
Toi, qui es-tu?
Tu as été choisi pour résoudre une dispute. Tu dois décider laquelle de ces 3 déesses est la plus belle.
Des déesses?
Quelle que soit celle que tu désigneras, tu recevras la pomme d'or.
J'élève du bétail. Comment pourrais-je faire un tel choix?
Zeus, le maître de la foudre, t'a choisi personnellement. Ce n'est qu'un jeu.
Les déesses guerrières, Héra et Athéna, promettent à Paris de grandes victoires si elles sont choisies. Aphrodite promet plus simplement qu'il épousera Hélène, la fille de Zeus et la plus belle femme du monde. femme déjà mariée en Grèce à Ménélas, mais cela ne devrait pas faire obstacle.
Il est temps de faire ton choix.
Elle est à toi.
Aphrodite gagne. Paris enlève Hélène. La guerre peut commencer. Une plaisanterie. Un défi bouffon. Lancé par la déesse Querelle, a produit la plus grande crise qu'ait, selon les Grecs, connue l'histoire humaine et divine, la guerre de Troie.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Is up. They wanna tell us how to think and how to laugh and how to cry and how to move. Listen, war.
Society's arms of control. Yeah. They think they're smart. Well, think again. They laugh at us behind our backs. Find satisfaction.
Pierre Judet de la Combe parle d'Aphrodite, la déesse de l'amour.
Aphrodite agit en maîtresse des désirs. Elle sourit, plaisante, reçoit ou offre des cadeaux, séduit et manipule les êtres qu'elle a rendus amoureux. Une fois, une seule fois, ce n'est pas elle qui commande les désirs. Elle sera victime de son propre désir. Son père Zeus lui impose un jour d'être amoureuse à son tour. On lit cela dans un poème ancien, un hymne à Aphrodite, poème longtemps attribué à Homère. Il date de la fin du 7e ou du début du 6e siècle avant notre ère. Le dieu souverain Zeus en eut assez d'être moqué par sa fille Aphrodite. Chaque fois qu'il rentre chez lui dans l'Olympe, après une aventure terrestre où il s'est uni à une femme mortelle. Chaque fois, c'est Aphrodite qui lui a inspiré ce désir, et la déesse des sourires se vante, avec un rire exquis, dit le poème, d'avoir obligé son père et tant d'autres dieux et déesses à coucher avec des humains, et de devenir ainsi père ou mère de pauvres êtres mortels. Elle leur a fait perdre leur dignité de dieu. Pour un instant, pour une passion légère, ils ont quitté leur supériorité divine, effrayés avec le monde inférieur, peu reluisant des mortels. Alors qu'en fait, s'ils arrivent toujours ou presque à leur fin en matière d'amour, c'est que ce sont des dieux puissants, impérieux et très peu regardants quant au désir de leurs victimes. Passons. Ne supportant plus ses rires et ses vantardises, Zeus rend sa fille Aphrodite, à son tour amoureuse d'un mortel, le jeune et beau prince troyen Anchise, qui était à l'époque, comme Paris le sera une génération plus tard, le plus bel homme du monde. Comme Paris, il garde des vaches sur les pentes boisées du mont Ida, près de Troie. À peine Aphrodite le voit, de loin, qu'elle est transie de désir. Elle se rend vite chez elle, à Chypre. Et comme Héra voulant séduire Zeus dans l'Iliade, elle se revêt des parures les plus belles, les plus divines.
Là, les grâces la baignèrent et la frottèrent d'une huile immortelle, telle qu'elle fleurit sur les dieux qui sont toujours, d'ambroisie, douce, qu'on avait parfumée pour elle. Le corps parfaitement vêtu de vêtements beaux, ornés d'or, Aphrodite, qui aime les sourires, se rua vers Troie, laissant le jardin parfumé. Haut dans les nuages, elle fit vivement sa route et parvint à la montagne de l'Ida aux mille sources.
Aphrodite est en majesté, déesse universelle de l'amour, aussi bien chez les dieux, chez les humains que chez les animaux. Elle est accompagnée de bêtes sauvages, caressantes et enamourées, qui, nimbées de la puissance érotique qui émane d'elle, se mettent à s'accoupler.
Avec elle, cherchant les caresses, loups gris et lions aux yeux avides, ours et vives panthères inassouvis de faim s'élancèrent. Allez voir, Aphrodite avait le cœur charmé dans sa poitrine. En leur sein, elle mettait le désir, et tous, ensemble, deux par deux, se couchèrent dans les gîtes ombreux.
Elle arrive à l'étable où se reposait seul le bel Anchise. Elle lui ment, se présente comme une fille du pays pour qu'il ne se vante pas d'avoir connu une déesse. Elle lui demande de la présenter à ses parents. Il est d'accord, mais il veut que l'idylle ait lieu tout de suite. Il avait compris qu'elle n'était pas un être normal. L'idylle a lieu. Au réveil, Aphrodite apparaît debout, immense, grande, de taille divine et non humaine. Elle révèle à Anchise qui elle est. Elle révèle que de lui, elle aura un fils aîné qui est destiné à la gloire, à régner sur la ville de Troie. Les Romains, Virgile en tête, feront d'Aîné, exilé en Italie, l'origine de la puissance romaine. Mais Aphrodite a tellement honte de s'être unie à un mortel qu'elle ordonne à Anchise de ne rien dire de son union avec elle, de ne jamais dire qu'Aphrodite est la mère de cet aîné. D'ailleurs, le nom de ce fils aîné, en grec Aineias, rappelle la honte que ressent la déesse. Aineias reprend l'adjectif Ainos, qui veut dire terrible, affreux, alors que le jeune homme sera bien évidemment glorieux et magnifique. Les Grecs, qu'ils soient dieux ou humains, aiment bien jouer avec les mots. Ainos veut dire aussi éloge ou énigme, aîné et tout cela à la fois. C'est depuis ce jour de honte qu'Aphrodite a cessé d'envoyer les dieux et les déesses s'unir à des mortels. Les dieux n'engendrent plus de demi-dieux. Les mortels s'unissent entre eux. À cause de cette nuit avec Anchise, l'âge des demi-dieux, des héros, des grandes épopées, des grands mythes est définitivement clos. Aucun être humain ne peut désormais se vanter d'avoir été aimé ou d'avoir aimé un dieu ou une déesse. Et aucune divinité non plus ne peut se morfondre d'avoir couché avec un ou une mortelle. Pour l'amour et Aphrodite, chacun chez soi. Aphrodite n'est donc pas seulement douceur et plaisir. Avec son comparse guerrier Arès, avec ses aventures, avec sa nuit d'amour avec Anchise, elle fait l'histoire. Elle fait que les humains et les dieux, pris de désir, insatisfaits et aimants, ne se contentent pas de rester sur place, de mener une vie répétitive, statique. Le désir, qu'il soit d'amour, de guerre ou d'action, mais les dieux et les humains, hors d'eux-mêmes, les bougent. Aphrodite, avec sa beauté, leur ouvre la dimension du temps, la dimension de l'appétit, de la recherche de ce qu'ils n'ont pas. Elle met les êtres en mouvement, elle leur permet de se rejoindre, de s'unir, de créer de la nouveauté, à leurs risques et périls. À l'œuvre, derrière les grandes entreprises divines et humaines, Aphrodite ouvre le temps de l'histoire. Tout cela est bien gentil, clame le poète Hésiode, quelques générations après Homère, et son Aphrodite mutine et drôle, mais aussi guerrière et instigatrice de souffrances inouïes. On ne peut pas se contenter d'en faire la fille de Zeus et d'une mère aussi palote que Dionée. Si Aphrodite est puissante, si elle émeut autant et fait s'accoupler les dieux, les humains et les bêtes et tous les êtres qui peuplent la nature, elle ne peut avoir une origine aussi banale. Il faut lui donner plus, la placer plus haut dans l'histoire des dieux, puisque Zeus, l'éternel amoureux, est si dépendant d'elle. Aphrodite ne peut naître de Zeus, puisqu'elle commande ses actions. Hésiode reprend alors un mythe connu au Moyen-Orient. Les échanges étaient très fréquents à cette époque. Ce mythe surprenant fait naître Aphrodite d'une violence extrême, bien avant que Zeus ne vienne au monde. On est presque au tout début de l'histoire du monde. La déesse Terre, Gaïa, a engendré toute seule un dieu qui est strictement son égal par la taille, le dieu ciel, Uranos. Il la couvre en tout lieu. Ciel et sa mère Terre s'unissent. terre est féconde. Elle porte en elle plusieurs dieux et déesses, ceux qu'on appellera les titans. Mais si elle craint de perdre sa suprématie, son pouvoir, si des dieux de lui voient le jour, il empêche donc ses fils et ses filles de sortir du ventre de leur mère. Attention, messieurs, maintenant ça va saigner, là où on voudrait le moins que ça saigne, avec un grand coup de serpe dans le grand sexe de ciel, l'immense dieu masculin. Aphrodite, déesse de l'amour et des sourires, naîtra d'une castration sanglante. Paradoxe. Terre, qui ne peut accoucher, souffre, se fâche. Rusée, elle invente un artifice. Elle fait naître en elle un long filon ferreux. Et avec ce fer, elle fabrique une grande serpe. Puis elle demande à ses enfants qui se porterait volontaire pour les délivrer de leur malheur et se venger de leur père. Cronos, le fils cadet, le dernier-né, accepte. Il se met à l'affût. Le soir vient.
Apportant la nuit avec lui, le grand ciel arriva. Autour de terre, désirant l'amour, il se plaça et se déploya en tous sens. L'enfant Cronos se lança hors de l'affût. De sa main droite, il saisit la serpe énorme, longue, aux dents aiguës. Dans son élan, il moissonna le sexe de son père.
La castration du dieu ciel a des effets énormes. À partir d'elle, la violence de la guerre, la violence du droit punitif vont se répandre dans le monde. Mais c'est aussi l'origine de l'amour, d'Aphrodite. Les premiers enfants issus de cette blessure sont terrifiants ou hostiles.
Les gouttes sanglantes qui en jaillirent, Terre les reçut toutes. Une fois révolu le cercle des années, elle mit au monde les Érénies, puissantes, et les grands géants, qui flamboient dans leurs armes, de longues lances à la main, et les nymphes qu'on appelle Méliennes sur la terre infinie.
Les Érénies sont des divinités cruelles, coléreuses, qui viennent punir les crimes des dieux et des mortels, notamment quand un ancien a subi un affront de la part d'un plus jeune. Ciel, le père, a été outragé, et le fera payer à ses enfants. Ces Érénies seront efficaces. Les géants sont des guerriers agressifs. Quant aux nymphes dites Méliennes, elles paraissent douces, mais elles portent le nom d'un arbre, le frêne, Mélia, qui évoque la guerre. Avec son bois, on fabrique les lances des guerriers. Puis Aphrodite vient au monde. L'enfant Cronos a jeté le sexe de son père par-dessus son épaule. Il tombe dans la mer. Une écume se forme. Aphrodite aura là son lieu de naissance.
Le sexe, quand il l'eut tranché avec le fer et jeté depuis la terre dans la mer qui déferle sans fin, fut emporté par la haute mer longtemps. Autour se levait une écume blanche sur la chair immortelle. En elle, une jeune fille grandit. D'abord, elle s'approcha de Cythère, la très divine. De là, elle atteignit Chypre, qu'entourent les flots. Elle sortit, digne et belle déesse, et sous ses pieds souples, l'herbe poussait et l'entourait.
Le nom d'Aphrodite trouve son origine dans cette naissance marine. L'écume blanche qui sort du membre coupé du dieu et qui se mêle à l'écume des vagues se dit en grec « Aphros ». Aphrodite est l'écume du dieu, sa semence libérée, longtemps portée par les vagues. Cette écume a pris la forme d'un corps magnifique. Aphrodite n'a ni père ni mère. Elle est le sperme d'un dieu, désormais incapable de procréer, une semence errante, libre, universelle. Semence masculine en forme de femme. Le dieu du ciel, Uranos, désormais incapable d'amour, s'éloigne à jamais de terre. Il laisse ainsi ouvert l'espace où, grâce à Aphrodite, les êtres pourront croître, s'aimer, se reproduire. Mais c'est aussi l'espace où les hommes comme les dieux pourront se faire la guerre et s'infliger des châtiments violents. Les deux vont ensemble. Si le dieu ciel n'avait pas été châtré, si la fusion première de ciel et de terre, sa mère, n'avait pas été rompue, aucune vie n'aurait été possible. Il n'y aurait pas eu Aphrodite, ni les horreurs de la guerre et de la haine. Hésiode met ce récit sanglant et marin au début de son poème sur la naissance des dieux. Les dieux de l'Olympe, Zeus, Héra, Arès, Athéna, Poséidon, qui règnent sur le monde, qui déchaînent à leur guise guerre ou passion amoureuse et façonnent ainsi l'histoire des humains, ne sont pas les maîtres, contrairement à ce que pourraient faire croire les histoires plus ou moins plaisantes racontées par Homère. Ces divinités obéissent à un ordre des choses. violent, qui les dépasse.
Cette blessure où meurt la mer comme un chagrin de chair, où va la vie germer dans le désert, qui fait de sang la blancheur des berceaux, qui se referme au marbre du tombeau. Cette blessure d'où je viens, cette blessure où va ma lèvre à l'aube de l'amour, où bat ta fièvre un peu comme un tambour, d'où part ta vigne en y pressant des doigts, d'où vient le cri le même chaque fois, cette blessure. Cette blessure qui se referme à l'orée de l'ennui, comme une cicatrice de la nuit, et qui n'en finit pas de se rouvrir, sous des larmes qu'affirme le désir. Cette blessure, comme un soleil sur la mélancolie, comme un jardin qu'on n'ouvre que la nuit, comme un parfum qui traîne à la marée, comme un sourire sur ma destinée. Cette blessure d'où je viens, cette blessure drapée de soie sous son triangle noir, où vont des géomètres de hasard bâtir de rien des chagrins assistés, en y creusant parfois pour le péché. Cette blessure, cette blessure qu'on voudrait coudre au milieu du désir, comme une couture sur le plaisir, qu'on voudrait voir se fermer à jamais, comme une porte ouverte sur la mort. Cette blessure dont je
Jacques Lacarrière.
Les dieux grecs étaient souvent parmi les hommes, ils avaient la possibilité et même le souci de se présenter sans cesse au milieu des êtres humains, mais souvent de façon invisible. Donc, la seule façon de savoir quand un dieu était dans son temple ou se trouvait à proximité, c'était leur odeur. Aphrodite, c'est la rose. Tous les temples d'Aphrodite étaient une des tâches des prêtresses d'Aphrodite était de cultiver les roses. On pense d'ailleurs que le fait que la rose soit devenue une fleur aujourd'hui cultivée partout et emblématique vient de ce qu'elle a été conservée dans les jardins d'Aphrodite, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça s'appelle la fleur des jardins d'Aphrodite.
Aphrodite, force amoureuse, libre, débarrassée de toute attache et présente partout, ambiguë, bonnes et mauvaises selon les moments. Les poètes, les philosophes auront à affronter cette contradiction, à tenter de la rendre compréhensible. Du côté de la poésie, les poèmes qui nous proposent l'expérience la plus vive, la plus poignante des incertitudes où nous met Aphrodite, sont sans doute les poèmes de Sappho, l'immense poétesse de l'île de Lesbos, île actuellement porteuse d'un nom triste, île où aujourd'hui viennent se heurter tant d'exilés fuyant la haine. Sappho est une poétesse née à Lesbos au 7e siècle avant notre ère. Par bonheur, des papyrus nous ont conservé des poèmes d'elle ou des fragments de ses poèmes. Elle avait la charge de l'éducation des jeunes filles bien nées de l'île de Lesbos. Elle les formait et nouait avec elle de fortes relations amoureuses avant que ses filles éduquées ne la quittent pour se marier. Enfin, de la poésie grecque ancienne non sexiste. Dans l'école de Sappho, les alternances de l'amour étaient violentes. Aphrodite y jouait pleinement son rôle. Dans le poème que je vous propose d'entendre, elle appelle Aphrodite à l'aide. La femme aimée ne l'aime pas, ou plus. La déesse doit accourir.
Déesse au trône de couleur, immortelle Aphrodite qui tresse des ruses, je te prie, enfant de Zeus, ne soumets pas mon cœur à la nausée, au chagrin, ô souveraine, viens ici.
L'appel se veut d'autant plus convaincant que plusieurs fois déjà la déesse est venue secourir Sappho.
Un jour déjà, et un autre jour encore, de loin tu entendis ma voix, tu l'écoutas. Quittant la maison dorée de ton père, tu vins ici sur le char que tu avais attelé. Très beau, te conduisaient de vifs moineaux au-dessus de la terre noire. Les tourbillons serrés de leurs ailes fendirent droit l'azur du ciel. Tout de suite ils arrivèrent. Et toi, ô bienheureuse, avec le sourire de ton visage immortel, tu me demandas de quoi je souffrais à nouveau. Pourquoi à nouveau je t'appelais, et ce que par-dessus tout, dans mon cœur délirant, je voulais qu'il m'arrive. Qui dois-je encore convaincre de revenir à l'amour de toi? Qui, ô Sappho, a été injuste envers toi?
La déesse n'avait alors qu'une chose à dire à Sappho, l'instabilité de l'amour, le retour des sentiments oubliés, le caractère implacable des chassés croisés de l'amour.
Si elle te fuit, vite elle te pourchassera. Si elle ne reçut pas tes cadeaux, elle t'en donnera d'autres. Si elle n'aime pas, vite elle aimera, même si elle ne veut pas.
Sappho, la mal-aimée, veut réentendre ses paroles. Elle veut surtout qu'Aphrodite soit son alliée dans sa lutte. L'amour est une guerre.
Viens à moi aujourd'hui encore et délivre-moi d'une dure angoisse. Tout ce que mon cœur désire accomplir pour moi, accomplis-le. Sois la compagne de ma guerre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Léa d'Auvergne et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son et le mixage ont été assurés par Valérie Lavalla. La semaine prochaine, nous parlerons du plus beau des dieux, Apollon, un voyou magnifique. Bonne journée sur France Inter.